Alors, amis, bonsoir et bienvenue à la conférence organisée par le groupe d'études théosophiques en Tarentaise, dont le titre est Les rêves et l'éveil intérieur. Alors, pour introduire la conférence, nous allons faire une petite lecture tirée d'un article de Robert Crosby qui est intitulé Le sommeil et les rêves. Nous allons en fait lire deux petits passages que nous pouvons retrouver dans le cahier théosophique numéro 183. Alors, l'état de rêve est celui où nous entrons lorsque nous quittons le corps avant d'accéder à celui du sommeil sans rêve. Et, au réveil, c'est celui par lequel nous repassons avant de retrouver l'état de veille dans le corps. Dans nos rêves, nous savons que nous avons tous nos sens, bien que le corps soit en repos et que les organes des sens soient inactifs. Nous pouvons voir et ressentir, entendre, parler et agir exactement de la même manière qu'à l'état de veille, sans pour autant utiliser les organes physiques associés à ces perceptions et actions. Cela démontre que nous sommes conscients, vivants, que nous existons, bien que le corps n'en sache rien. De plus, nous savons que notre identité n'est pas perturbée en accédant à l'état de rêve. C'est nous et personne d'autre qui expérimentons cet état. En ce qui concerne le sommeil et les rêves, les psychologues occidentaux n'ont pas dépassé le stade de ces concepts. Ils ignorent ce que l'on savait il y a très longtemps et ce que certains savent encore aujourd'hui, à savoir que l'ego, l'homme, le penseur, est plus pleinement occupé, bien plus réellement son vrai soi, pendant le sommeil sans rêve du corps, qu'à aucun autre moment. Aussi disait-on que le jour pour le corps était la nuit pour l'âme, et la nuit pour le corps était le jour pour l'âme. Quand le corps est endormi, l'homme réel est des plus actifs, avec le plus haut degré d'intelligence. Simplement, il pense et agit sur un tout autre plan, dans un état complètement différent de tous ceux que nous connaissons pendant l'existence humaine de veille ordinaire. Alors amis, place à la conférence.
Alors amis, il semble bien que de nos jours un intérêt particulier pour l'étude des rêves se soit réactivé, peut-être grâce à la psychologie moderne qui a découvert que par l'intermédiaire des rêves, on pouvait avoir des renseignements sur notre conscient, mais aussi sur notre inconscient. Cependant, l'intérêt suscité par les rêves n'est pas une nouveauté, puisque les anciens, dans toute l'Antiquité, se sont penchés sur ce sujet. Ils ont cherché la clé des songes, ils ont cherché à l'aide de rêves à prévoir le futur. Par ailleurs, dans de nombreuses civilisations, certaines traditions disaient que grâce aux rêves, une relation mystique pouvait s'établir entre l'homme et son Dieu. D'ailleurs, dans la Bible, il est clairement dit que Dieu instruit l'homme par les rêves. Bon, mais tout d'abord, nous allons parler du rêveur, puisque selon toute logique, il n'y a pas de rêve sans rêveur. Et le rêveur, c'est qui ? Eh bien, c'est l'homme ou la femme que nous sommes, qui rêve chaque nuit, souvent sans le savoir, car on n'est pas toujours en mesure de s'en souvenir. Et au fond, est-ce que nous connaissons bien cet homme et cette femme ? Ce que nous voyons concrètement, c'est la face visible de l'iceberg. Et la face cachée, en fait, est beaucoup, beaucoup plus importante. Il existe des aspects de l'être humain, aussi bien au niveau substantiel que du point de vue de la conscience, qui nous échappent complètement. Selon l'enseignement théosophique, alors nous avons un corps éthérique, c'est-à-dire un corps astral, dont l'existence maintenant semble être démontrée par la réalité de certains phénomènes dits paranormaux, comme la transmission de pensées ou la clairvoyance, des états de conscience supranormaux, si l'on veut les nommer ainsi, qui sont différents de nos états de conscience de la vie de veille. Autrefois, nous n'avions guère que le témoignage des mystiques, des saints ou des yogis pour faire référence à ces états. Mais de nos jours, pour donner une base à ces situations, nous pouvons nous appuyer sur les témoignages des rescapés de la mort. Ces individus qui, sans doute, il y a 30 ans, seraient morts, hein, parce qu'il n'existait pas de technique de réanimation suffisante, mais qui aujourd'hui reviennent parfois à la vie après avoir frôlé la mort et qui tous racontent des choses étonnantes à la fois sur la façon dont ils ont vu leur corps physique étendu, gisant, immobile, alors qu'ils se trouvaient en dehors, si l'on peut dire, et qui insistent surtout sur ces expériences de supraconscience qu'ils font à ce moment-là, lorsqu'ils se sont trouvés juste à la frontière de la mort, avant de regagner leur corps, souvent à regret. Hein. Alors tout cela pour dire que le mystère concernant l'homme s'éclaircit un peu aujourd'hui, mais il reste toujours assez profond. Hein. Et la théosophie nous propose certaines explications dont il nous paraît nécessaire de parler avant d'aborder le sujet du rêve proprement dit. Alors, du point de vue théosophique, le rêveur, l'homme, la femme, l'être humain, est essentiellement une âme en évolution qui cycliquement emprunte des corps, des formes physiques pour expérimenter la vie, puis abandonne cette forme pour en prendre une autre. C'est le principe de la réincarnation. La loi de réincarnation doit être comprise comme la réalité d'une âme transpersonnelle n'ayant ni sexe ni race particulière et qui, au cours de ses réincarnations successives, va expérimenter différents genres de personnalités avec pour compagne sa sœur jumelle, la loi de karma, très importante également, à savoir qu'il n'existe pas d'effet sans cause ni de cause sans effet. Ceci étant démontré d'ailleurs au niveau scientifique. Mais cette loi de karma est beaucoup plus importante qu'il n'y paraît puisqu'elle englobe non seulement les plans physiques mais aussi les plans intérieurs de l'homme, les plans psychiques, les plans spirituels et eux aussi régis par cette loi de causalité. Nos pensées, nos sentiments, nos émotions constituent de véritables énergies qui sont des causes puissantes, susceptibles de produire des effets, qui parfois se produisent dans l'immédiat, mais qui pour la plupart ont leur effet à retardement. Par analogie, on peut citer cet exemple des archéologues ayant découvert dans des sépultures très anciennes des graines vieilles de milliers d'années et qui, mises en condition de chaleur et d'humidité, se sont mises à germer. Cela signifie que la cause, là dans la graine, attendait patiemment le moment venu et les conditions favorables pour produire leurs effets. Alors de la même façon, beaucoup de ces énergies que nous générons constamment hein, par nos pensées, par nos émotions et par les actes qui s'en suivent sont des causes potentielles dont les effets se feront sentir plus tard, ou dans cette vie, ou dans des vies futures, lorsque cette âme que nous sommes reviendra. Alors cette âme, c'est quoi au juste? D'où vient-elle? Cette âme, c'est un aspect du grand principe divin qui n'est pas là pour nous juger ou pour nous punir, un principe divin universel qui est partout présent et dont le cosmos manifesté en est une expression momentanée. L'âme est issue de cette grande puissance, de ce grand soleil spirituel, a-t-on l'habitude de dire en théosophie. Alors attention, ce pouvoir qui n'est pas un être pensant, mais qui est l'origine de toute pensée, de tout sentiment, et qui n'est pas un être qui va décider après avoir choisi, mais qui est ce pouvoir que nous avons tous de choisir et de vouloir. Bref, c'est la source de toute chose. Alors cette âme, c'est à la fois une individualité, puisque c'est quelque chose de séparé, destiné à évoluer, évolution non seulement extérieure, car c'est l'expression d'un potentiel présent dès l'origine de l'univers, qui lui-même est un nouvel univers succédant à une infinité d'autres venus avant lui, puisque les univers passent eux aussi par des phases d'apparition et de disparition. Alors cette âme que nous sommes vraiment, donc c'est une expression de ce pouvoir divin, donc individualisé, mais qui cependant n'est jamais séparée de ce principe divin universel. Et c'est là le paradoxe qui est important à retenir. En effet, dès l'instant où nous plongeons nos racines dans l'universel pour en être un rayon qui nous apparaît comme individuel, mais qui finalement n'est pas séparé du soleil dont il est issu, de la même façon, nous ne sommes jamais séparés de notre source divine, ce qui signifie que nous communions en permanence avec tout le cosmos et avec tout ce qui existe. De ce fait, nous sommes tous liés les uns aux autres par un lien qui n'est pas de nature affective, sentimentale ou émotionnelle, mais qui est un lien réel, un peu comme des frères siamois. Et ceci nous amène à comprendre que la fraternité universelle n'est pas un lien d'émotion, mais une réalité que l'on pourrait qualifier de scientifique. C'est un fait de la nature, une loi de la nature. Alors, puisque nous plongeons nos racines dans le divin, cela veut dire que potentiellement, nous sommes omniscients. Nous avons tous les pouvoirs du cosmos qui sont là, endormis, latents, bien sûr, mais qui vont s'éveiller, se réaliser progressivement au cours de l'évolution. C'est d'ailleurs là le but de l'évolution, que ces pouvoirs potentiels passent à l'état de réalisation, et ceci grâce à nos réincarnations successives. Alors, comment cette âme dont il est question va-t-elle s'incarner? Nous disons souvent qu'elle prend un corps. Mais en fait, c'est une expression hardie qui est fausse. Elle ne prend pas un corps, mais elle se lie à un corps physique par l'intermédiaire du corps astral. Et cette liaison va demeurer pendant toute la durée de la vie pour donner naissance à la personnalité que nous représentons et que nous pensons être et que nous considérons comme nous-mêmes. Un personnage avec un certain sexe, homme ou femme, une identité, un langage particulier, une mémoire de notre vie actuelle. Nous croyons être cela, mais nous sommes des êtres mortels et tout cela va disparaître à la mort. Alors nous ne sommes pas cela. Nous sommes cette âme qui adombre cette forme physique, qui est là en présence permanente, qui est l'être immortel que nous sommes vraiment. L'image que nous croyons être et que nous donnons à l'extérieur, c'est quelque chose qui change en permanence, de la naissance jusqu'à la mort, destiné à disparaître, en laissant cependant un certain butin qui va être assimilé par l'âme permanente et dont les principes, les principales lignes vont se retrouver dans la vie future. Alors, avec la loi de karma, nous allons retrouver les tendances que nous avons générées. C'est pourquoi de vie en vie, tout en ayant changé de costume, nous sommes le même être à l'intérieur. Il est important de souligner que pendant toute la vie, cette personnalité que nous représentons est en communion télépathique permanente avec l'âme que nous sommes vraiment. C'est par cette présence permanente de l'âme que nous avons ce pouvoir de la soi-conscience, le pouvoir de réfléchir à l'avenir, de penser au passé, ce que l'animal ne sait pas faire. Nous avons des idéaux qui transcendent nos intérêts purement égocentriques et nos désirs animaux, qui nous portent à des aspirations vers le noble, le beau, le vrai, vers ce qui est fraternel, vers ce qui est l'amour véritable, non intéressé. Alors tout ça, c'est possible grâce à la présence de cette âme, sans laquelle nous agirions comme des animaux intelligents, bien sûr, mais uniquement pour notre satisfaction personnelle, sans jamais avoir d'idéal. La présence de cette âme, de ces idéaux, de la soi-conscience, amène aussi ce sentiment de pouvoir choisir, c'est-à-dire d'avoir un certain libre-arbitre. L'animal n'a pas de libre arbitre, et le petit enfant non plus d'ailleurs, parce que l'âme qu'il est vraiment ne joue pas encore complètement son rôle dans sa personnalité. Elle se manifestera entièrement vers l'âge de 7 ans, vers l'âge dit de raison, et à ce moment-là, il commencera à avoir la liberté de choisir comme un homme, parce que l'âme aura fini d'établir son lien avec le corps. Alors, il était important de préciser tout cela à propos du sujet de ce soir qui concerne les rêves. Et nous prions nos amis qui connaissent déjà la théosophie et ses grandes lignes de nous en excuser. Nous faisons des conférences pour tout le monde et il nous a paru nécessaire de faire ce rappel pour que ce que nous allons dire maintenant soit compréhensible pour tous. Alors, que se passe-t-il au moment du sommeil ? Lorsque on s'endort, un certain désengagement, une certaine rupture va se produire entre le corps astral qui va s'éloigner un peu, très peu, et le corps physique. Il paraît que des clairvoyants pourraient le voir flotter légèrement au-dessus du corps physique, mais tout ça, c'est pas très important. Il est plus important de savoir que l'âme s'éloigne du corps astral et du corps physique sans en être complètement séparée, sinon ce serait la mort. Et lorsque nous disons qu'elle s'en éloigne, il faut considérer que nous ne sommes plus dans un espace spatio-temporel. Bien que l'âme ne soit pas une abstraction pure et simple, elle est faite d'une certaine substance, elle est composée d'un certain corps, si l'on peut dire, qui a une réalité objectivement et qui peut très bien, lorsqu'elle s'est désengagée des corps physiques et astral, être en relation immédiate avec d'autres âmes ou d'autres êtres, parce que la notion d'espace que nous avons dans la vie de veille n'a plus de sens pour elle. Lorsqu'il est dit qu'elle part, c'est pour dire qu'elle va se retrouver ailleurs, par rapport à cet espace à trois dimensions. Cela signifie qu'elle va entrer dans un autre état de conscience. Cet état de prisonnière du corps physique et astral dans lequel elle est enfermée pendant la vie de veille et qui sont les seuls intermédiaires par lesquels elle peut s'exprimer. Alors le corps physique avec son cerveau ainsi que le corps astral avec son cerveau astral, toute cette machinerie n'ayant plus son ange gardien va continuer à fonctionner, hein, mais sans contrôle. Pendant la vie de veille, nous avons le libre arbitre, le pouvoir de choisir. Alors tout ça, c'est fini. Nous entrons dans un état où tout va se passer tout seul, en quelque sorte. Le cerveau va continuer à bouger un peu et des images vont se former sur le plan cérébral, astral et physique. Le penseur, à son réveil, va photographier, entre guillemets, ce déclenchement d'images d'une façon désordonnée, non contrôlée, sur le plan du cerveau, d'où se produit quelque chose qu'on va percevoir comme un rêve, une impression fugace, instantanée. Mais, me direz-vous, on a parfois l'impression qu'un rêve dure une partie de la nuit, et ce phénomène s'explique par le fait que pendant la nuit, nous avons beaucoup de mini-réveils. On s'éveille un peu, sans vraiment se réveiller, pendant un quart de seconde, on s'est retourné, puis on se rendort aussitôt. Mais cela a suffi pour que le penseur, puisse photographier ce qui se passe à ce moment-là dans le cerveau. Et cela va générer un rêve dont on se souviendra peut-être ou peut-être pas au réveil. Des études scientifiques ont prouvé que l'on perçoit le rêve lorsqu'on se réveille ou lors d'un pseudo-réveil. Alors, que se passe-t-il pendant le sommeil ? Eh bien, beaucoup de choses qui vont être la cause des rêves que le penseur voit comme un clin d'œil au moment de son réveil. Tout d'abord, le cerveau physique peut être influencé par un bruit extérieur, mais le plus important, c'est toute la mémoire aussi bien consciente qu'inconsciente, qui, libérée, va se manifester en provoquant des images, d'où la nécessité d'interpréter ses rêves pour en comprendre la signification. La psychologie moderne se borne à l'explication de l'intervention de ces deux mémoires, hein, consciente et inconsciente, et à certains bruits extérieurs susceptibles d'induire certaines formes de rêves. Si on se limite à ça, il y a beaucoup de rêves parfaitement inexpliqués. D'autres facteurs vont intervenir et jouer un rôle important. Nous sommes en permanence en liaison avec l'ego supérieur, hein, comme on a vu tout à l'heure, mais aussi avec toutes les pensées qui circulent dans l'atmosphère psychique de la terre. Autrement dit, nous sommes tous influencés les uns par les autres. Des groupes de pensées collectives, bonnes ou mauvaises, hein, circulent et nous y sommes sensibles consciemment pendant la journée, mais nous y sommes encore plus sensibles la nuit. Et certains rêves peuvent être induits par cette contagion psychique. Par ailleurs, nous pouvons aussi, pendant le rêve, être en rapport télépathique avec d'autres êtres. Il est dit que certaines personnes font la même nuit, le même rêve, qu'une personne qu'elles connaissent bien et avec laquelle elles sont en sympathie. Par un phénomène de télépathie, l'une a induit le rêve chez l'autre. D'autre part, de nombreux témoignages affirment qu'on a pu voir en rêve une personne, un proche, quelqu'un qu'on connaît, mourir à l'autre bout de la terre pour apprendre sa mort réelle le lendemain matin. Donc là encore, le rêve de communication télépathique par sympathie, par amour pour un proche qui fait qu'un événement important, ici la mort en l'occurrence, se manifeste sous la forme d'un rêve. Il faut savoir que la mémoire astrale garde enregistrés tous les événements passés et également certains événements du futur dont les causes ont déjà été semées et dont rien ne pourra empêcher la réalisation, hein, dont rien ne pourra empêcher les effets, ce qui signifie que l'on peut, en lisant dans cette matière astrale, ce que les clairvoyants peuvent faire à l'état de veille, voir des événements du passé, mais aussi des événements du futur, qui peuvent être interprétés, parfois mal, mais enfin c'est un pouvoir qui existe et qui n'est pas forcément lié à un développement spirituel, mais plutôt à un pouvoir psychique qui se manifeste chez certaines personnes qui ont développé un pouvoir de clairvoyance et qui peuvent, à l'état de veille, à l'aide de supports comme des cristaux, pendules, des cartes, voir ce qui se passe dans l'astral. Cela peut aussi se manifester dans le rêve et certains peuvent avoir des rêves prémonitoires, ce qui semble troublant pour la plupart des individus qui ne connaissent pas la théosophie et qui ne comprennent pas comment ils ont pu voir quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Alors évidemment, à la lumière de la théosophie, ce genre de phénomène s'explique si l'on connaît la constitution de l'homme et si l'on sait que les causes semées amèneront immanquablement leurs effets. Il y a aussi des rêves qui proviennent de messages de communication de l'âme véritable, donc l'ego supérieur, qui bien sûr prend ses distances au sens figuré du terme pendant la nuit, mais reste cependant en relation avec le penseur véritable qui est potentiellement omniscient et qui, lorsqu'il est libéré, réalise cette omniscience, ce qui explique que certaines informations captées à ce moment-là puissent passer et se traduire par un rêve. Mais malheureusement, certains obstacles font barrage. On observe deux types d'obstacles essentiels. Tout d'abord, ces informations se trouvent emmêlées lorsqu'elles parviennent sur le plan physique, après avoir traversé les sphères psychiques et astrales. À leur arrivée dans le cerveau, elles se trouvent mêlées à toutes les pensées qui proviennent de la mémoire consciente et inconsciente, et également à tout ce qui concerne les rêves anodins que nous pouvons faire. Et lorsqu'il y a vraiment un rêve de nature spirituelle qui vient de l'être intérieur, il peut être tellement déformé lorsqu'il se trouve mêlé à tout le reste qu'il peut apparaître comme un cauchemar, comme un rêve grotesque, avec ce processus de bouillonnement spontané qui agite le cerveau pendant le sommeil. Par ailleurs, une autre difficulté se présente car l'ego supérieur, l'âme réelle, a son propre langage qui n'est ni le français, ni l'anglais, ni aucune autre langue. Le langage, c'est quoi? C'est quelque chose que les hommes ont inventé, hein, pour ainsi dire, ont mis au point pour pouvoir communiquer entre eux, pour formuler leurs pensées. Mais c'est un processus cérébral, c'est un apprentissage, on apprend le langage. Alors que l'ego, lui, il vit d'images. Hein. C'est une connaissance directe, immédiate, instantanée, qui n'a aucun besoin de s'exprimer par des mots. Donc, comment l'ego va-t-il s'exprimer? Eh bien, les messages qu'il envoie vont se traduire à nous sous forme de symboles ou d'allégories. Les psychologues ont découvert la présence du symbolisme dans les rêves et certains pensent même qu'il existe un symbolisme collectif hein, qui serait le même pour tout le monde. Ceci n'est pas évident. Parfois, peut-être, mais pas toujours. En tout cas, sous forme d'allégorie, d'image, de scène, un certain enseignement peut être tiré selon l'interprétation que l'on en fait. Donc, l'ego supérieur peut s'exprimer sous cette forme. La théosophie nous dit que chaque nuit, l'ego supérieur va entrer en communion avec l'âme de certains êtres morts que nous avons aimés, avec des proches. Mais attention, hein, il ne s'agit absolument pas de spiritisme. Il ne s'agit pas d'un dialogue, c'est une espèce d'osmose, de symbiose qui est d'ailleurs vécue inconsciemment par les deux parties. Mais le rêveur peut parfois, lors de son réveil, manifester quelque chose de ce contact établi pendant son sommeil qui peut éventuellement apporter une sorte de protection pour les événements de la journée à venir ou pour le futur. Parfois aussi peuvent se produire des rêves d'avertissement qui, s'ils sont bien interprétés et pris au sérieux, vont peut-être sauver la vie. Il est un rêve relaté dans le cadre d'une réunion théosophique de l'époque qui cite l'exemple d'une dame rêvant une nuit qu'elle voit arriver un corbillard conduit par un cocher au visage significatif portant une large balafre qui s'adresse à elle en lui disant « Êtes-vous prête ?» L'impression produite la réveille immédiatement. Elle pense avoir fait un cauchemar en rêvant de ce corbillard avec ce cocher balafré qui vient la chercher. Cette dame est très marquée par ce rêve, mais les jours passant, elle finit par l'oublier jusqu'au moment où quelques semaines plus tard, elle se rend à New York dans un grand magasin comportant plusieurs étages, desservi par un ascenseur qu'elle décide de prendre. Alors elle se présente devant la porte qui s'ouvre et là, le liftier, un homme au visage balafré, lui dit « Êtes-vous prête ?» Elle est vaguement impressionnée, mais elle monte tout de même. Tout à coup, son rêve lui revient en mémoire et comme poussée par une force, elle demande alors au liftier de l'arrêter avant l'étage qu'elle avait prévu d'atteindre initialement. Bon, elle descend et l'ascenseur repart. Et tout à coup, elle entend un énorme fracas et des cris. Que se passe-t-il? Eh bien, l'ascenseur est tombé. Toutes les personnes qui l'occupaient sont tuées alors qu'elle a la vie sauve. C'est tout à fait le cas d'un rêve prémonitoire. Beaucoup d'autres exemples de ce genre pourraient être cités. Ce sont des rêves induits par la présence de ce soi intérieur qui est omniscient, qui sait. Et dans le cas présent, il ne s'agit même pas d'une allégorie, hein, mais de quelque chose de beaucoup plus frappant, puisque le visage du cocher et celui du liftier étaient caractérisés par cette balafre. Par contre, l'idée du cercueil, elle, était allégorique, elle pouvait suggérer la mort. Encore fallait-il interpréter la situation correctement. Hein. Mais cela a été suffisant pour permettre à cette dame de quitter l'ascenseur à temps et d'éviter la catastrophe. Alors, on voit que l'on peut favoriser, on peut aider et on peut contribuer à la prise de conscience de ces messages qui nous arrivent par l'intermédiaire de l'ego supérieur pendant le rêve, à condition de s'y préparer. Comment ? Tout d'abord en menant une vie moins matérielle que celle que nous avons l'habitude de mener, en essayant d'être un petit peu plus tourné vers le spirituel, un peu moins égoïste, égocentrique, en étant un peu plus ouvert sur les autres, essayons d'avoir une vie plus fraternelle. Prendre connaissance d'une littérature mystique, c'est bien, mais surtout, essayons de mettre en pratique dans la vie de tous les jours les idées spirituelles suggérées dans ces livres. D'autre part, en cultivant le pouvoir de la concentration, l'information transmise par l'ego supérieur va nous permettre d'interpréter son message d'une façon moins éparpillée, moins désordonnée, et par conséquent de bénéficier de plus de chances de saisir une information plus claire, moins déformée. Pour arriver à cela, essayons de nous préparer à nous endormir et aussi à nous réveiller. Hein. Essayons, avant de sombrer dans le sommeil, de faire un examen de conscience de la journée qui vient de s'écouler. Avons-nous eu les bons comportements face aux événements qui se sont présentés? Aurions-nous pu améliorer certaines de nos réactions? Aurions-nous pu faire mieux? Par ailleurs, si l'on s'endort en lisant quelques passages d'un livre spirituel, et puis en essayant de se réveiller d'une façon naturelle, sans la sonnerie d'un réveil puissant, si le réveil est progressif, peut-être aura-t-on plus de chances de se souvenir d'un rêve. Certes, il faut bien se réveiller pour aller travailler. Vous aurez déjà remarqué sans doute que si l'on respecte une certaine régularité dans la façon dans les horaires, hein, dans la façon de s'endormir et de se réveiller, par le phénomène de la loi des cycles, on va arriver à se réveiller naturellement toujours à la même heure, sans brutalité. Alors certains n'ont jamais fait de rêve spirituel. Bon, alors peut-être c'est vrai, ou peut-être en a-t-on certainement fait, mais on ne s'en souvient pas. Mais il peut arriver, ne serait-ce qu'une fois dans la vie, qu'un individu fasse un rêve tellement extraordinaire, si marquant, qu'il ne trouve pas les mots pour le relater, pour le décrire. Et on peut comparer cela à une expérience faite lors d'une NDE. On ne sait pas mettre les mots adéquats sur ce qu'on a vécu, mais la vie tout entière de la personne concernée va changer complètement. On dirait bien que ce contact avec l'ego omniscient que l'individu ne sait pas traduire, qui est comme une impression intérieure, inexprimable, mais tellement marquante, qu'il se rend compte qu'il n'est pas sur la bonne voie, et toute sa vie va en être bouleversée. Alors maintenant, toute la question est de savoir quels sont nos rêves spirituels. Faut-il noter nos rêves? Alors ça semble difficile, hein, d'autant plus qu'à force de les noter, on ne va peut-être plus retrouver l'information principale qui ne peut être utile qu'à la condition d'être accessible. Alors on peut noter ceux qui sont vraiment marquants, ceux qui ont fait impression sur nous, ou ceux qui reviennent d'une façon récurrente pour pouvoir en tirer une explication au fil du temps. Bon, même si tout cela reste assez abstrait, souvenons-nous au moins que pendant notre sommeil, il se passe quelque chose, hein, il y a un contact avec les réalités du monde spirituel qui existent, même si nous ne le savons pas. Prenons-en conscience, et le fait même de le savoir peut donner une qualité différente à ces informations spontanées que nous recevons pendant la nuit. Alors, ce sujet est très très vaste et d'une grande importance, et les individus sont vivement engagés à purifier, à élever, à concentrer les actes de la vie de veille, de manière à cesser de passer en vain, jour après jour, nuit après nuit, par les alternances de ces états naturels, hein, mais sans en être plus éclairés ni plus aptes à aider leurs semblables. Alors en conclusion, retenons que l'ego réel de l'homme, le soi supérieur, possède un langage qui lui est propre. Et pour nous être utile, il faut que ce langage soit décodé correctement afin que les messages de l'ego parviennent intégralement à la conscience cérébrale au moment du réveil, d'où la nécessaire discipline de purification du mental et du cœur. Alors voilà.